titre initial était La Manche aidante, c'était typiquement un titre provisoire qui, évidemment, que j'ai évidemment précisé, que j'ai précisé en disant, en l'intitulant Le temps amoureux chez Dante, du discontinu au continu. Parce qu'évidemment, j'ai un problème évidemment fondamental avec l'amour chez Dante, c'est que l'amour chez Dante, c'est le thème de Dante. C'est-à-dire que toute l'œuvre de Dante est consacrée à l'amour. Donc, évidemment, c'est seulement de ça qu'il s'agit. Et donc, de ce fait, il était un peu ambitieux de vouloir présenter ça en une seule intervention. Alors, l'idée justement de cet amour et le problème qui va nous lier à la question de la temporalité va supposer que l'on voit que chez Dante, le terme d'amour n'est pas un terme univoque. C'est quelque chose qui connaît une certaine évolution, puisqu'il y a plusieurs axes, plusieurs périodes à l'intérieur de la pensée et la réflexion de Dante. Une période première, qui est sa période qu'on pourrait dire courtoise, même s'il faudrait préciser que c'est quelque chose qui est très spécifique chez lui, c'est-à-dire où la question de l'amour va être traitée à partir d'un héritage qui est essentiellement celui du Trobar, celui de la poésie courtoise, donc quelque chose qui va être une ambiance extrêmement poétique, mais qui va progressivement se modifier dans une seconde phase de l'amour, où là, le terme d'amour est pris en un sens un petit peu différent, c'est la période, on pourrait dire, plus philosophique, qui va manifester, par exemple, qui va se manifester essentiellement dans des ouvrages comme Le Convivium, où cette fois, l'amour sera l'amour de la sagesse. Et donc, il y aura une transformation un petit peu de la figure de Béatrice, figure courtoise, évidemment, de ses amours originels, en une dame philosophique, inspirée, évidemment, par Boès, qui va amener une première métamorphose de sa conception de l'amour. Juste pour présenter un petit peu, très globalement et très brièvement, c'est à grands traits, disons, son orientation. Et il y a une troisième phase, qui est celle de la Divine Comédie, dans laquelle, eh bien, la question de l'amour va s'articuler cette fois autour de la question de l'amour divin, puisque l'amour, dans son expression la plus haute à l'époque, est évidemment articulé à la question de l'amour de Dieu et la manière dont cet amour se répand à travers sa création. Alors, tous ces thèmes, en réalité, sont étroitement liés au niveau même de l'écriture. Et c'est là où se pose l'ensemble des problèmes et qui vont permettre d'élaborer une réflexion sur cette question, justement, du temps et sur le problème du continu et du discontinu, c'est-à-dire comment réussir à faire de l'amour quelque chose de continu, alors qu'il risque de tomber en permanence dans la déception et donc la discontinuité, d'autant que chez Dante, la discontinuité est quelque chose qui est majeur dans sa construction de l'amour, puisque Béatrice meurt très tôt. Et donc, de ce fait, toute l'existence de la dame est absente pendant la période d'écriture de Dante. Et donc, de ce fait, eh bien, il y a une sorte de discontinuité fondamentale qu'il cherchera à essayer de résoudre. Alors, malgré cette équivocité de la question de l'amour chez Dante, on se rend compte néanmoins eh bien, qu'il y a une sorte de lien qui, à l'époque, devient problématique entre la question de l'amour courtois, telle qu'il est formulée d'abord par les poètes, les trouvères, les troubadours, qui vont écrire la question de l'amour, la question d'un amour sensible pour une dame qui est charnelle, mais qui vont l'écrire dans un vocabulaire qui est le vocabulaire de la théologie. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la perfection de cet amour va être très souvent quelque chose qui va s'articuler à ce que l'on dit de l'amour divin. Et donc, de ce fait, il y a très tôt une sorte de, disons, d'opposition extrêmement violente des théologiens vis-à-vis, justement, de l'amour courtois. À tel point qu'on va avoir une condamnation de... alors, il y a un ouvrage central... à la fin du XIIe siècle, qui s'appelle « Le traité de l'amour courtois » de André de Chapelain, qui est un ouvrage bon, qui, en gros, théorise la question de l'amour chez les troubadours, et qui va se trouver condamné en mars 1277 par Étienne Tempier, lorsqu'il écrit ses 219 propositions philosophiques qui vont être condamnées. Il précède cette liste de condamnations eh bien, d'un syllabus, une introduction dans laquelle il condamne toute une série d'autres erreurs, d'autres problèmes, d'autres traités. Il condamne notamment la question de la double vérité et étonnamment, il condamne les traités de nécromancie, de magie noire, de sorcellerie, ainsi, dans la même phrase, que le traité de l'amour pour toi d'André Chapelain. Alors, il est assez étonnant, évidemment, d'avoir une association entre des choses qui, évidemment, sont des hérésies manifestes, la nécromancie, etc., et la question de cet amour qui paraît, finalement, somme toute, peu dangereux. Quel est le problème? C'est justement que ce que cherche à faire cette phase courtoise de l'amour, c'est essayer de penser, justement, l'éternisation de l'amour par la création d'une figure qui est celle de la dame, qui prend progressivement eh bien, les traits d'une quasi-divinité pour laquelle eh bien, le poète entre en dévotion. D'où le fait que, alors on trouve, bon, évidemment je n'ai pas le temps de détailler sur la question des troubadours parce que je voudrais arriver assez vite sur Dante, mais on trouve chez des gens par exemple comme Arnaud Daniel, que Dante a beaucoup lu, et qu'il rencontre au purgatoire dans la Divine Comédie, eh bien, on trouve des affirmations selon lesquelles il aime sa dame avec une dévotion encore plus grande que certains religieux en ont pour Dieu. Et donc, on voit que l'analogie est quelque chose qui va être systématiquement évoqué par ces poètes de l'amour pour toi. Alors, de ce fait, eh bien, cet amour a nécessairement quelque chose qui va appeler une transcendance, ce qui nous incite à voir justement cette question du temps à partir d'abord justement de l'angle divin, puisque la question du temps est quelque chose effectivement de très problématique au niveau métaphysique et physique. On a un héritage à l'époque de la pensée augustinienne, évidemment, qui va rajouter à la conception aristotélicienne du temps, selon laquelle le temps, comme il le dit dans la physique, est le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur, qui est la définition classique du temps physique. On va rajouter la dimension de ce temps psychologique qui va être celle d'Augustin. Alors je me suis intéressé plutôt, je vous ai mis un premier petit texte de Thomas d'Aquin, pour essayer de voir justement comment la question du temps pose le problème de la continuité. Parce que, en effet, eh bien, qu'est-ce qui fait la continuité du mouvement et, par extension, la continuité du temps, qui est le nombre de ce mouvement, si je suis dans une perspective aristotélicienne. Alors, j'ai mis un court extrait, très court, j'ai mis peu de textes, parce que chez Dante, il y en avait beaucoup, donc je préférais me centrer sur quelques textes. Mais Thomas d'Aquin nous dit « L'existence des créatures dans la somme théologique dépend à tel point de Dieu qu'elle ne pourrait subsister un instant, momentum, et serait réduite au néant si par l'opération de la puissance divine, elle n'était conservée dans l'être. » Donc, on voit que, ici, il s'agit d'une expression de la création continuée telle que la pense Thomas d'Aquin, c'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, les formes substantielles permettent l'existence de la chose pendant un moment, c'est-à-dire la plus petite durée de temps, par opposition à l'instant, c'est pour ça que j'ai mis momentum, parce que j'ai utilisé la traduction de la somme théologique classique, mais en réalité, il faudrait dire un moment, puisque l'instant est la limite du temps, il n'a pas de durée. Le moment, lui, a une certaine extension, donc il a une certaine durée. Néanmoins, il ne suffit pas pour persévérer dans l'être, d'où la nécessité d'une recréation perpétuelle, qui est la création continuée, qui donc va faire que la temporalité, eh bien, trouve son unité dans la création divine. Donc, en lui-même, en soi, le temps risquerait d'être discontinu s'il n'était pas soutenu par cette puissance de création. Ce qui fait que, on voit déjà, qu'il y a une discontinuité fondamentale du monde sensible et de sa temporalité, mais une continuité qui est donnée par l'opération perpétuelle de création divine qui va assurer la continuité. Dès lors, si on transpose ça sur la question qui nous intéresse, sur la question de l'amour, on se rend compte que, nécessairement, l'amour pour la dame va se trouver dans cette temporalité discontinue. Contrairement à l'amour divin, il ne va pas être, disons, unifié par la temporalité divine. Donc, comment réussir, justement, à sortir de la discontinuité du temps amoureux, qui, évidemment, pour reprendre le titre de ce colloque, est une épreuve, puisque on le voit par exemple dans toute la pensée des troubadours, il y a une sorte d'alternance perpétuelle entre la souffrance, qui s'appelle le souffrir, qui est véritablement un état de disparition et d'anéantissement de l'individu, et ce qu'ils appellent la joie, qui est une sorte de sublimation de soi lorsque la dame répond positivement à cette épreuve du temps. Comment réussir à intégrer dans cet amour lui-même, eh bien, la possibilité d'une durée, d'une continuité, pour éviter justement sa disparition, son sectionnement et cette discontinuité du temps amoureux. Alors, la première étape sur laquelle je voudrais réfléchir est le problème justement d'un temps amoureux qui est discontinu. Évidemment, Dante, dès ses premières œuvres, si on regarde la Vita Nova, eh bien, présente une unité de son amour, puisque c'est la figure de Béatrice qui va assurer cette unité. Néanmoins, eh bien, Dante n'est pas l'homme d'un seul amour. Bon, voilà. On va essayer de voir un petit peu la différence entre ce qu'il écrit et finalement, ce que l'on en sait, ce qu'il fait, puisque on sait que Dante se perd plutôt entre différents amours. Il y a beaucoup de femmes, il écrit beaucoup de poèmes à différentes femmes. Alors on ne sait pas si c'est la même, il dit que ce sont toutes des figures de Béatrice, mais on le voit dans les rimes, par exemple, c'est des femmes complètement différentes, puisqu'il y a celle qui est sous le nombre 30, alors parce que Dante a fait une classification des 60 plus belles femmes de Florence, qui il a donné un numéro. Donc il fait un poème pour la numéro 30, il fait un poème pour Violette, il fait un autre poème pour une certaine Fleurette, alors on ne sait pas si c'est Violette ou si c'est encore une autre. Bref, il y a dans toutes ces dames une différenciation, même s'il prétend dans la Vita Nova, mais qui est une réécriture plus tardive, eh bien qu'en réalité ce sont toutes des figures de Béatrice, qui est sa seule béatitude. Donc il écrit évidemment son amour pour Béatrice, dans le vocabulaire de la question d'une vision béatifique très classique de la littérature théologique. Alors, il va essentiellement aussi, c'est un autre problème qui apparaît dans cette discontinuité, vers des femmes qui ressemblent à Béatrice. Exemple, il écrit dans la Vita Nova que parfois, eh bien, il croise une dame qui ressemble à celle qu'il aimait, puisque Béatrice, au moment de l'écriture de la Vita Nova, est déjà morte, et il va s'en amourer de cette dame parce qu'elle ressemble, parce qu'elle est une image de celle qu'il aime. Donc on se rend compte qu'en réalité, on a une dispersion de l'amour sur une multitude d'objets, ce qui le conduit à tout un ensemble de mouvements erratiques, désordonnés, qui conduisent aussi à un temps sectionné. C'est ce que l'on voit lorsqu'il en parle dans la Vita Nova, c'est le texte 2. Alors je ne vais pas te lire, mais... Alors que se passe-t-il à ce moment-là? En fait, Dante est amoureux de Béatrice, mais Béatrice... Alors, il y a plusieurs problèmes avec Béatrice. D'une part, je vais vous les expliquer après le texte. Bon. Il y a, de l'avis des observateurs dont il restitue le discours, l'idée que Dante est en train de se détruire. C'est-à-dire qu'il y a à plusieurs reprises, il dit à la deuxième ligne, regarde combien cette dame détruit cette personne. Il dit un peu plus loin, j'ai croisé des gens qui, en parlant de moi, m'ont dit, ils ne se ressemblent plus. Et donc, il passe son temps à changer, il passe son temps à, à se métamorphoser de manière négative et à aller progressivement, comme il le dit à la fin du texte, vers... dans l'autre texte, pardon. Mais à avoir la pâleur de la mort. Ce qui se passe dans ce premier texte, je vous l'ai mis parce que c'est une anecdote qui est classique de la situation du poète courtois. C'est-à-dire que Dante est en train de regarder Béatrice pendant une cérémonie et en fait il se rend compte qu'il a peur évidemment que les gens découvrent son amour pour Béatrice. Mais il se rend compte que les gens sont en train de croire qu'il regarde la dame, parce qu'il est en train de regarder Béatrice, mais il se trouve qu'il y a une femme au milieu. Et tout le monde croit qu'il est en train de regarder celle du milieu. Et il se dit formidable, eh bien, c'est ce qui va me permettre de faire croire que j'aime cette dame-là et pas Béatrice. Et donc, je pourrais garder mon secret. Et c'est pour ça qu'il écrit dans ce texte 2, je vais faire de cette noble dame un écran contre la vérité pour essayer de garder son secret. Puisque une des caractéristiques de l'amour courtois est que l'on doit chercher à garder le secret, on doit symboliser la dame par ce que les troubadours appelaient un sanhal, qui est une, disons une image, un mot codé, etc., pour ne pas dire de quelle personne il s'agit exactement, pour ne pas lui poser de problème. D'où le fait qu'avec cette autre dame, à la fin du texte, il dit « Avec cette dame, je me cachais durant quelques mois et années, et pour augmenter la croyance des autres, je fis pour elle des petites choses rimées que je ne souhaite pas écrire ici, sauf dans la mesure où elles me permettent de parler de cette très noble Béatrice. » Donc il écrit des poèmes pour cette dame, ce qui est évidemment un moyen, du moins selon lui, pour cacher son véritable amour. Mais Béatrice, évidemment, découvre toutes ces poésies qu'il écrit à plein de femmes, alors qu'il est censé être son amoureux, donc elle se vexe, et un jour où il la croise, elle lui refuse son salut. Elle lui refuse son salut, ce qui pour Dante est un anéantissement complet, puisqu'elle ne veut plus lui parler, puisque justement il se rend compte qu'elle lui reproche de courir un peu la gueuse, dans cette dissémination des objets, et donc de se perdre dans cette multiplicité des choses sensibles. Et on voit, c'est le propos du texte 3, que ce mouvement de l'amour devient un mouvement qui est un mouvement erratique. Il va insister beaucoup dans ce texte sur la question de l'égarement, de l'errance, c'est-à-dire ce que l'on retrouve au début de la Divine Comédie, qui commence par l'idée que la voie droite était perdue, c'est pour ça qu'il se retrouve dans une forêt obscure, c'est-à-dire que cette espèce d'éclatement du mouvement va l'amener justement à se perdre. C'est ce qu'il dit ici, dans le troisième texte, « Je me sentis accablé par un tel égarement. Il commença à se tourmenter comme une personne frénétique, à produire des imaginations, donc il est en train de se démultiplier. Au début, l'errance de ma fantaisie m'apparurent certains visages de femmes échevelées qui me disaient toi aussi tu mourras. On voit encore le mot errer après, etc. Et il finit en disant qu'il porte la couleur de la mort. Alors, on assiste chez Dante à une transformation où il passe par différentes phases et où en réalité le refus du salut de Béatrice l'amène à plonger dans un état de dépression. Il va rester 9 jours alité suite au refus du salut de Béatrice et va dire qu'il a pris la pâleur de la mort et que donc son visage désormais est finalement celui d'une sorte de mort vivant. Donc Dante a deux ruptures fondamentales de cette continuité amoureuse. D'une part, le refus du salut de Béatrice, qui pour lui est un premier anéantissement, et bien entendu, la mort de Béatrice par la suite, qui va être la seconde rupture et qui va poser le problème de cette discontinuité du temps amoureux, puisqu'en réalité, le temps amoureux n'est pas quelque chose que je peux réussir à vivre de manière unifiée. Il est sans cesse affecté par des aléas. Aléas de la démultiplication des objets, qui aboutit à une errance, qui aboutit à une frénésie, etc. Aléa aussi de la disparition de l'objet fut-il unique comme Béatrice, ou qui peut refuser son salut, ce qui amenait s'offrir des troubadours. D'où se pose la question, eh bien, comment réussir à unifier ce temps amoureux, comment réussir à trouver une continuité dans cette discontinuité. Alors, c'est le problème d'un deuxième temps qui serait l'idée de créer une continuité du temps amoureux. C'est-à-dire que le temps amoureux lui-même, au niveau physique, au niveau réel, est un temps discontinu. Donc, néanmoins, il est possible de lui donner une certaine continuité, et ça va être le travail de Dante, notamment à partir de la Vita Nova. Pourquoi ? Parce que la Vita Nova, qu'il présente dès le début comme le livre de la mémoire, c'est-à-dire le livre de la mémoire, est écrit après la mort de Béatrice. Et ce qu'il fait dans cette Vita Nova, c'est-à-dire la vie nouvelle, c'est réinterpréter son histoire passée et tenter de donner à une série d'événements, qui sont des événements justement discontinus, la continuité d'une narration pour essayer d'organiser des choses qui, à la base, pouvaient sembler désorganisées. C'est ce qu'il explique en disant qu'il ne se rendait pas compte de ce qui se passait lorsqu'il le vivait, mais maintenant qu'il écrit et maintenant qu'il, grâce à sa mémoire, grâce à ses souvenirs, réécrit son histoire sous la forme d'une véritable narration, c'est-à-dire une reconstruction complète de soi, eh bien, il voit une cohérence, il voit une continuité, il voit une unité. Ou plutôt, on pourrait dire que par la Vita Nova, il crée une unité en réinterprétant complètement la discontinuité de sa temporalité un petit peu erratique d'un Dante qui est, comme me disait mon ami Bruno Pinchard, un chaud lapin. Donc il réécrit tout cela en disant « Je n'ai qu'un seul amour, c'est Béatrice. Toutes les femmes que j'ai chantées n'étaient que, en fait, des moyens de cacher la vérité, un écran contre la vérité, pour masquer, justement, la véritable unité de mon amour, qui est celui de Béatrice. » C'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait dire que la Vita Nova, ce livre de la mémoire, est un moyen de... un artifice permettant de ramener la discontinuité à une continuité et qui permet, à ce moment-là, de voir que c'est l'écriture de l'amour elle-même qui va permettre d'assurer une continuité de la temporalité, mais une temporalité qui n'est plus la temporalité vécue, mais qui est la temporalité du récit. C'est-à-dire que c'est véritablement dans le récit poétique que l'amour pourra passer cette épreuve du temps, disons, éviter la discontinuité et se présenter comme une narration continue. C'est pour cette raison que ce livre de la mémoire qu'est la Vita Nova se fait sous l'égide de la mémoire, puisqu'on va puiser l'ensemble des événements passés et les articuler justement dans une unité de narration qui fait que cette écriture de soi va permettre une constitution du sujet, une sorte de substantialisation du sujet, qui en lui-même, dans sa vie, eh bien, est dispersé, mais qui trouve son unité en s'écrivant lui-même. Donc cette pratique d'écriture devient une pratique de soi, une sorte d'exercice amoureux permettant de retrouver l'unité et de donner au temps une continuité, puisque les différents événements de sa vie passée, on voit par exemple qu'il va dire, alors c'était toujours dans le texte 3 sur lequel je suis passé un peu vite, mais il dit à la ligne 6 « Et la fausse imagination fut si forte qu'elle me montra cette dame morte. » Et il me semblait que des femmes couvraient sa tête d'un voile blanc. Donc il y a une anticipation de la mort de Béatrice, puisque évidemment elle est déjà morte au moment de l'écriture de la Vita Nova. Donc il réinterprète son existence passée en disant « J'avais déjà le pressentiment, j'avais déjà la connaissance de ce futur, mais je ne savais pas à l'époque ce que cela pouvait véritablement signifier. » Donc la réécriture permet de donner à tout un ensemble d'impressions discontinues la continuité d'une sorte de destin que la mémoire va permettre de restituer. Alors le problème, c'est que cette continuité-là, en réalité, se révèle quelque peu dangereuse. On le voit dans un autre texte qui fait partie de la seconde période de Dante, qui est sa période philosophique, c'est le Convivio, dans lequel il revient justement sur Béatrice et sur la question de cette dame qui lui apparaît, la dame philosophie, et pour laquelle désormais il va avoir une grande dévotion et vers laquelle va se porter son amour. On le voit, c'est le texte 4, dans le Convivio 2-2, il dit, donc environ 3 ans après le décès de cette bienheureuse Béatrice, cette noble dame dont j'ai fait mention à la fin de la Vita Nova, parce qu'à la fin de la Vita Nova, il explique qu'il a une sorte de révélation pour la philosophie et qu'il arrête la poésie pour un temps et qu'il se remettra à la poésie quand il sera suffisamment aguerri pour pouvoir chanter Béatrice comme elle le mérite, puisqu'il considère qu'il lui manque une formation, notamment philosophique, pour réussir à parler de la dame à la manière dont elle le mérite. Alors, elle a paru accompagnée d'amour, je ne lis pas tout, évidemment, mais il nous dit, à peu près au milieu du texte, « Parce que l'amour ne naît ni ne grandit ni se perfectionne subitement, mais qu'il a besoin de temps et de se nourrir de pensées, particulièrement là où des pensées contraires l'empêchent, une grande bataille fut nécessaire entre la pensée qui le nourrissait et celle qui lui était contraire, avant que ce nouvel amour ne fût parfait, car la pensée de la glorieuse Béatrice tenait encore la forteresse de mon esprit. Un amour était continuellement entretenu par la vue à l'avant, tandis que l'autre était à l'arrière par la mémoire. » Alors, texte qui est un peu obscur, mais cela s'explique parce que Dante explique qu'il découvre l'amour pour la philosophie, donc cette noble dame qui lui apparaît. Mais il a la mémoire de l'amour pour Béatrice. Et la mémoire de l'amour pour Béatrice devient un obstacle qui l'empêche de passer vers ce nouvel amour. Et donc, une bataille de pensée apparaît, c'est ça, cette bataille entre Ce qui tient la forteresse de l'esprit, c'est-à-dire l'amour pour Beach et Portinari, et la vraie Béatrice qui était son amour de jeunesse, qu'il conserve par la mémoire, et ce nouvel amour qui apparaît, mais qui n'arrive pas à trouver sa place parce que la mémoire l'empêche justement de se déployer. Et donc, alors finalement, la philosophie triomphe dans cette bataille, et ce n'est pas un oubli de Béatrice, c'est plutôt une transmutation de Béatrice en dame philosophie. C'est-à-dire que, quel est le problème de cette continuité assurée par la mémoire ? C'est qu'elle fige justement l'amour dans une dimension passée et empêche le renouvellement perpétuel de l'amour. Elle crée une sorte de forteresse, une forteresse intérieure de la mémoire, qui est une forteresse finalement au passé, et qui fait qu'il n'y a plus dans cette forteresse la revivification nécessaire de l'amour, qui, pour Dante, est le sens fondamental, justement, de l'activité amoureuse, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est dynamique et qui n'est pas une statique. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il réutilisera beaucoup dans la Divine Comédie, puisque on voit sans cesse, alors évidemment c'est aussi un interdit, disons une mise en garde théologique qu'on trouve dans la Bible, mais l'idée qu'il ne faut jamais regarder en arrière, jamais retourner sur ses pas, c'est ce que lui dit Virgile quand il est en enfer, il lui dit il ne faut pas que tu regardes en arrière et il ne faut pas non plus que tu t'arrêtes de marcher. Parce que si tu t'arrêtes de marcher, tu vas rester ici pendant 1000 ans. Et donc, il faut toujours avancer, il faut être toujours dans le mouvement vers l'avant. Et dans la Divine Comédie, c'est l'amour qui lui permet justement ce mouvement vers l'avant. D'où le fait que l'enfermement dans la mémoire, cette continuité de la mémoire, cette continuité de l'écriture de la Vita Nova, se révèle en réalité dangereuse. Qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Eh bien que finalement, le temps de l'amour n'est pas celui du livre de la mémoire, qui est un temps au passé, ce n'est pas non plus celui des amours courtois, qui est le présent, parce que celui-ci est trop évanescent. La véritable temporalité de l'amour, c'est le futur. C'est-à-dire que l'amour ne se comprend qu'au futur, comme un élan dynamique, sinon, justement, eh bien, il s'arrête, il se meurt par une sorte de stagnation. D'où le fait que la troisième phase va être nécessairement une nouvelle conception de la temporalité de l'amour comme une tension continue vers le futur, quelque chose qui va être dynamique et qui va se manifester véritablement dans la Divine Comédie. Le but de l'amour est véritablement la transfiguration de l'individu, mais dans un sens qui serait celui de l'élévation. C'est-à-dire que être amoureux, pour Dante, veut dire pas seulement se donner un objet, fut-il unique, comme c'était le cas dans la période courtoise ou dans sa réécriture mémorielle de la Vita Nova, mais se donner un but, se donner une tension vers quelque chose qui est une béatitude, est une transcendance, est une exigence de, disons, perfectionnement du soi. Ce qui fait que on voit dans la Divine Comédie, eh bien, cette espèce d'articulation entre le discontinu et le continu, une temporalité hachée, erratique, qui est celle de l'enfer, où on risque d'errer en permanence, c'est pour ça qu'il a besoin d'un guide comme Virgile dans cet enfer. L'enfer est une zone discontinue, puisque les cercles sont tous indépendants les uns des autres, et Dante doit la traverser pour essayer de se métamorphoser et pour surgir, évidemment, in fine, dans les lumières du paradis. Le problème est que il peut y avoir de faux mouvements. Le faux mouvement, c'est une métamorphose, c'est un mouvement qui serait circulaire, qui reviendrait toujours au même, et qui serait une répétition infinie du même. C'était un peu le risque, justement, de cet amour pour Béatrice tel qu'il était présenté dans la Vita Nova, c'est-à-dire que c'était une répétition de la même figure, qui pouvait passer aussi par la répétition des images des dames qui ressemblait à Béatrice. Or, en enfer, eh bien, Virgile lui montre, enfin, il découvre en cheminant, les fausses métamorphoses, c'est-à-dire l'illusion de la dynamique que le mal institue dans le monde, sous la forme de figures particulières, notamment, c'est au champ 25 de l'enfer, c'est les métamorphoses des voleurs qui se transforment en serpents, puis qui se retransforment en humains et qui sont toujours dans cette rotation de métamorphose qui n'aboutit finalement à rien. Il y a aussi des voleurs qui sont mordus par des serpents, qui tombent en cendres, puis qui renaissent de leurs cendres tel le phénix. Mais cette rotation-là n'aboutit à aucune élévation. C'est un mouvement circulaire qui, en réalité, est un enfermement et qui ne représente pas la véritable dynamique qui doit être une tension vers la perfection. Et donc, de ce fait, on se rend compte qu'il est nécessaire de changer la conception du temps. Si, à l'époque du convivio, il continuait à utiliser la définition aristotélicienne du temps, c'est-à-dire le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur, quelque chose qui était articulé simplement à la succession des événements physiques, dans la Divine Comédie, il va expliquer que, alors c'est au paradis, au champ 10, que le temps est mesuré par la lumière du soleil. Alors, je ne parlerai pas de la lumière chez Dante, parce que je vous donnerai juste des conclusions, parce que comme j'ai dû écrire un livre dessus, ça serait un peu long, mais ce qui va changer avec la Divine Comédie, c'est que Dante va mettre au principe de l'être la question de la lumière. Pourquoi ? Alors, c'est une grosse thématique de l'époque, c'est parce que le point lumineux est dans la métaphysique, dans des métaphysiques assez répandues à l'époque autour de la question lumineuse, qui s'intéresse justement sur la création dont on parlait au tout début avec Thomas d'Aquin comme un fiat lux. Il y a l'idée que eh bien, la création est la création d'une lumière primordiale, c'est ce qu'on trouve par exemple chez l'évêque d'Oxford du XIIIe siècle, Robert Grosstedt, qui explique que Dieu a créé un point de lumière fondamentale et que l'univers n'est rien d'autre que l'explosion de ce point de lumière, parce que la caractéristique de la lumière, c'est qu'elle est capable d'auto-multiplication par soi. Dès qu'il y a un point de lumière, il s'auto-multiplie pour devenir une sphère de lumière. La caractéristique donc de cette lumière, c'est qu'elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas statique, puisque justement, elle se répand naturellement par soi, et c'est la lumière qui, pour Dante, est le principe de tous les mouvements, qui est en dessous, en réalité, de toute la réalité physique. Quelque chose que l'on trouve dans des écrits arabes, ça dans le Liber de Intelligentis, qui sont traduits à partir du XIIe siècle, l'idée que l'ensemble de l'être est lumière et que tout est lumière. Donc, c'est des choses qu'on trouve chez Al-Kindi aussi, par exemple, avec l'idée que la parole est une lumière, que le mouvement est une expression de la lumière et que la musique aussi est l'expression de la lumière et que les choses elles-mêmes eh bien, ne sont que de la lumière. Quand la lumière est diffuse, eh bien, on aura de l'air. Quand la lumière se concentre et se condense, on aura des choses matérielles, des cailloux, etc. Mais tout est lumière. Donc en réalité, réinterpréter le temps sous l'angle de la lumière et sous l'angle de la dynamique permet de voir que le véritable amour, c'est quoi ? C'est une expression de cette lumière dont la véritable nature est d'être une tension perpétuelle vers le futur, quelque chose de véritablement dynamique. C'est-à-dire que la lumière amoureuse, qui va devenir un petit peu la métaphore, je dirais plutôt l'analogie, mais enfin bon, bref, de la Divine Comédie, eh bien, est quelque chose qui va permettre de comprendre eh bien, que la parole d'amour elle-même est quelque chose qui relève de cette lumière. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails, parce que je ne sais pas si il me reste beaucoup de temps non plus, mais c'est bon. Donc il y a l'idée, par exemple, alors, passons deux secondes quand même sur cette idée-là. Il y a cette idée-là dans un traité qui s'appelle le De Radiis, le traité des arts magiques. Enfin, c'est un sous-titre du XIIe siècle en latin, un texte d'Al-Kindi qui n'existe plus dans sa version arabe, mais qui est toujours disponible dans sa version latine, et dans laquelle Al-Kindi explique eh bien, que la parole est une lumière, et c'est ça qui explique qu'on puisse avoir, par la parole et par, des prononciations correctement rythmées, une possibilité d'agir sur les choses. Et donc, de ce fait, parce que la parole est lumière et parce que les choses sont des lumières, il est possible, par certaines formules, de créer des opérations magiques qui transforment les choses, tout simplement parce que c'est une sorte de relation entre la lumière de la parole et la lumière présente dans les choses. Et donc, pour Al-Kindi, ce n'est pas de la magie, c'est simplement quelque chose qui relève de la physique de la lumière. Or, on trouve cette idée très importante dans l'ensemble de la Divine Comédie, avec l'idée justement que la parole est lumière, au sens où justement elle va être quelque chose de créateur, elle va être quelque chose qui permet justement à l'individu de se produire lui-même, de se dynamiser, et C'est autour de cette force du dire que Dante va centrer sa question de l'amour. C'est-à-dire que, contrairement à la Vita Nova, où il s'agissait simplement d'une écriture de soi qui est celle de la mémoire, la Divine Comédie est un dire de soi, si on veut faire une différence entre les deux, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la véritable expression et qui doit toujours être revivifié. C'est pour ça que Dante explique que la Divine Comédie, eh bien, d'abord il a fait le voyage métaphysique réellement, puis il a écrit le poème racontant son voyage, puis ensuite il faut le lire. Il faut le lire et le relire pratiquement à l'infini. C'est-à-dire qu'il faut toujours revenir et réactiver par l'interprétation la parole pour qu'elle ne meure pas, pour qu'elle ne devienne pas une parole gelée, comme dirait Rabelais, et qu'elle ne s'arrête pas justement dans cette statique qui était le risque de la mémoire et ce risque statique. C'est pour cette raison que cela suppose eh bien, que le terme ultime de l'amour, ce n'est pas cette métamorphose négative qui était celle de l'enfer, ce n'est pas la métamorphose du changement de couleur qui m'amène dans la pâleur de la mort qui était celle de la Vita Nova, c'est une métamorphose de soi par son expression qui est ce qu'il appelle le transhumanar, la transhumanisation, qui amène l'individu eh bien, à hisser son amour et lui-même à une dimension supérieure qui est une dimension de surhumanité, donc cette transhumanité, qui est quelque chose qui va au-delà de la parole. C'est-à-dire que, alors il y a dans le paradis toute une série de références entre la parole, enfin, de relations entre la parole et la lumière, et notamment le rire de Béatrice est un rire purement lumineux. C'est-à-dire qu'on arrive à une réalité où les mots eux-mêmes disparaissent au profit justement de la luminosité qu'ils portent en eux. C'est ça qui va donner à la temporalité sa véritable unité, puisque c'est en étant justement dans cet amour qui est un dire lumineux, qui est une expression de soi qui va me permettre de réaliser une, disons, une transhumanisation de l'ensemble de mon être, que je vais pouvoir devenir véritablement créateur et que je serai de ce fait véritablement imago dei, c'est-à-dire que je serai une image de Dieu, non pas au sens où les pensaient les théologiens ou les philosophes chrétiens de son époque, au sens où j'ai un intellect qui est analogue à l'intellect divin, mais au sens où je suis créateur, non pas créateur ex nihilo, mais créateur de novo. C'est-à-dire que Dante met la nouveauté au centre même de son œuvre, et être véritablement humain, c'est créer en permanence de la nouveauté. Et ce mouvement de renouvellement est un mouvement d'amour. Un mouvement d'amour qui va se donner un objet unique qui est Béatrice, mais cette fois-ci Béatrice est au paradis, elle assure justement l'unité, non pas au sens où elle est un souvenir unique, mais au sens où elle est un but unique, le but ultime de l'existence, c'est-à-dire le but transcendant. Alors c'est ce qu'il y a dans le cinquième texte, Béatrice était toute fixée dans la roue éternelle, avec ses yeux, et moi, loin des hauteurs, je fixais la lumière de mon regard en elle, dans sa vision, je me transformais moi-même. Alors on retrouve les éléments qui sont les écrits classiques de ce qu'on appelle la vision béatifique dans la théologie médiévale. Je me transformais moi-même à la manière de Glaucus quand il mangeait l'herbe, qui le métamorphosa en mer, en l'égal des autres dieux. Transhumané ne peut être exprimé par des mots, mais l'exemple suffit à ceux à qui la grâce promet cette expérience. Alors, cette transhumanisation, eh bien, est quelque chose qui, cette fois-ci, justement, me permet de passer l'épreuve du temps. Puisque mon amour n'était finalement victime de la temporalité et de ses vicissitudes que parce qu'il était inscrit dans la sensibilité, y compris dans la sensibilité de cette mémoire qui finalement le maintenait dans la statique, mais à partir du moment où justement eh bien, il vise un objectif plus haut, à partir du moment où il vise la transhumanisation, il me sort de cette temporalité pour aboutir à une autre dimension, qui est une dimension d'éternité. C'est-à-dire que l'arrivée au paradis donne à Dante eh bien, la version ultime de l'amour, c'est-à-dire sa version éternelle, un amour pour la dame qui cette fois est au paradis, lui-même est au paradis, et donc cette fois-ci, eh bien, les aléas et les errances ne sont plus possibles. Alors bien sûr, on ne reste pas au paradis, enfin, avant la mort, donc Dante forcément va retourner sur Terre, et il va écrire le récit de son voyage. Et son mouvement d'amour, justement, sera ce mouvement d'écriture. Et finalement, si l'on peut interpréter évidemment le Trasumana comme quelque chose qui relève de la vision mystique, un objet élevé à la transcendance qui permettrait eh bien, une augmentation de l'être de l'individu à cause de la nature de l'objet, on peut aussi en faire une autre interprétation. On peut aussi considérer eh bien, que cette éternité qui est promise, qui est une espérance du paradis, que Dante touche du doigt donc dans cette fin de la Divine Comédie, est quelque chose que je peux aussi réaliser dans une dynamique de soi. Et cette fois-ci, on se rend compte que l'on retrouve l'écriture, mais ce n'est plus l'écriture de la vita nova. Ce n'est plus une écriture de la mémoire, c'est une écriture de la véritable création. On se rend compte que le texte de Dante, eh bien, cherche à changer complètement la poésie, que l'écriture même de la Divine Comédie vise à réaliser une continuité parfaite de l'œuvre grâce à la méthode, enfin la nouvelle rythmique poétique qui met en place, puisque la Divine Comédie, ce sont des vers endécasyllabiques, mais qui sont liés selon ce qu'on appelle la terza rima, qui est véritablement sa création. Alors la terza rima, c'est une structure qui dit, enfin qui est ABA, BCD, CDC, etc. Et à la fin, vous avez, mettons, un YZY et un dernier vers qui est Z. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les vers sont enchevêtrés et c'est le dernier vers de chaque chant qui assure le lien, qui assure le nœud, qui fait que le chant est complètement cohérent puisque tout le chant fonctionne dans une seule unité. Donc il a créé cette forme stylistique spécialement pour l'écriture de la Divine Comédie pour manifester justement une continuité complète à l'intérieur des chants et une continuité complète à l'intérieur de l'œuvre. Et finalement, eh bien, c'est cela qui va être cette nouvelle temporalisation du sujet, c'est-à-dire un sujet qui écrit la poésie, qui écrit une poésie continue, qui va être un dire de soi, qui va permettre une transhumanisation qui n'est plus celle de la vie mystique, mais qui est celle de l'individu créateur qui devient ce faisant, non plus Dante Alighieri, habitant et citoyen de Florence, même exilé, mais le Dante, c'est-à-dire quelqu'un qui est l'auteur d'une œuvre, une œuvre éternelle, et qui réussit justement à faire passer l'épreuve du temps à son amour par l'écriture même et la relecture perpétuelle qui revivifie l'œuvre, qui est celle de cette activité poétique. On peut donc dire, finalement, eh bien, que c'est véritablement avec l'écriture de la Divine Comédie, une écriture qui est une écriture dynamique et vivante, qui est une écriture qui suppose, pour l'écrivain, mais aussi pour son lecteur, eh bien, une interprétation perpétuelle à la fois de l'œuvre et de lui-même. Et c'est cela qui amène, justement, la possibilité de découvrir la véritable nature de Béatrice, qui est la béatitude, et qui, finalement, permet à cette figure de Béatrice de passer cette épreuve du temps. Voilà, je vous remercie.